Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 pour un nouvel opus de l'émission d'Attaque Campus, La Gueule Ouverte. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ça fait quelques émissions qu'on parle de mouvements sociaux, qu'on parle de ce qui se passe à la plaine, avec les gilets jaunes, avec les jeunes de Youth for Climate. Et à chaque fois, on traite un petit sujet de fond qui ramène un peu tout ensemble, qui est les médias, le traitement des journalistes et tout ce qui se passe au niveau de la presse et des médias français. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous sommes avec Anouk qui va vous en parler un peu plus.
Bonjour à tous. Dans cette émission, nous allons commencer par une introduction visant à brosser une rapide chronologie de l'histoire des médias en France et de la presse, afin de mieux comprendre le contexte de la presse aujourd'hui. Puis nous écouterons ensemble des micro-trottoirs sur les habitudes de consommation de l'information de la population. Ensuite, nous évoquerons l'institutionnalisation des médias traditionnels à travers une approche sociologique présentée par Sylvain. Puis, nous verrons en quoi cette institutionnalisation des médias traditionnels a des conséquences sur les modes de consommation de l'information et crée de la méfiance à l'égard des médias traditionnels. Nous tenterons de répondre à la question « Que doit faire le journalisme aujourd'hui ?» Mais aujourd'hui, la presse indépendante est en danger et ne permet pas de se placer en opposition au fonctionnement des médias traditionnels. C'est ce que nous développera Sylvain autour des dispositifs mis en place aujourd'hui pour faire taire les journalistes indépendants. Enfin, nous verrons en quoi il est nécessaire de s'insurger face à ces dispositifs, car ce n'est pas seulement la presse qui est en danger, mais la démocratie elle-même.
Alors, comme nous l'a rappelé Anouk, nous allons commencer cette émission par un rapide point historique. C'est toujours un peu lourd, c'est toujours un peu long, mais c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on vient, pour savoir de quoi l'on parle, et surtout pour savoir où l'on va. En France, c'est le journal papier qui est le premier média à apparaître. Avant ça, l'information était faite de rumeurs et de récits, d'ouï-dire et de bruits de couloir. La lecture, longtemps réservée à l'éducation, souvent religieuse, se charge d'un rôle nouveau avec l'apparition de la presse. Pour en comprendre les tenants et les aboutissants, afin de faire le point sur ces médias qui, aujourd'hui, nous semblent naturels, on va se permettre donc une petite accroche un peu historique. Alors attention, rien d'exhaustif dans ce qui va suivre. Et les ouvrages et les documentaires qui relatent l'histoire de la presse sont disponibles en quantité exorbitante. Mais revenons tout de même sur quelques points qui sont importants à garder en tête pour continuer notre raisonnement tout au long de l'émission. En France, donc, c'est Théophraste Renaudot qui est appelé un peu le père du journalisme français. On lui doit le premier numéro de La Gazette en 1631. Pour la petite histoire, ce premier journal français tire son nom du terme « gazetta » en italien, qui signifie « petite monnaie ». Alors, on voit se traduire la volonté de rendre financièrement accessible ce nouveau format d'écriture. Ayant un rapide succès à Paris, pour commencer, puis en province, La Gazette de Théophraste Renaudot est rapidement copiée par d'autres et fonctionne sur un principe très simple. La Gazette trouve sa raison d'être dans la suppression des faux bruits, des rumeurs, et assure donc une information claire et circonstanciée. Déjà, on voit se poser les bases de ce qui deviendra plus tard le journalisme. Le gazetier, noyé dans l'événement, est le détenteur de la parole vraie, grâce à ses sources et à sa proximité avec les acteurs. Par la suite, nous assistons au développement spectaculaire de la presse en France et partout en Europe. Les métiers se spécialisent, de la récolte de l'information à la distribution des journaux dans la rue, avec le fameux métier de crieur, aujourd'hui disparu. L'éthique s'impose comme une valeur dominante du journalisme, comme la nécessité de séparer les écrits des faits, des commentaires et des jugements. On voit alors fleurir de nombreux quotidiens, hebdomadaires, mensuels, aux approches et aux sujets variés. Si les récits des potins de la cour, comme pour le Mercure Galant, ont du succès, le XVIIe siècle marque également l'apparition de journaux philosophiques, scientifiques, voire libertaires. Ça peut nous paraître commun aujourd'hui, mais à l'époque c'était complètement nouveau. La science était quelque chose de repoussé, la philosophie encore plus, alors ne parlons pas des idéaux libertaires. À cette époque, le pouvoir monarchique s'exerce par le secret et par l'arbitraire. Le côté occulte des décisions qui sont prises se mêle alors à l'impossibilité pour toutes et tous d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Face à cela, la presse, mais aussi les salons de lecture et les cafés se multiplient comme autant de lieux et de moyens de communication de masse. Le parallèle entre la presse et la liberté se clarifie. aidé par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et son article 11 sur la libre communication des pensées, des opinions et des informations, ce ne sont pas moins de 550 périodiques qui voient le jour entre 1789 et 1792. On considère cette période comme la plus grande période de liberté de la presse que la France n'ait jamais connue. On pouvait écrire ce qu'on voulait, comme on le voulait, le distribuer à notre libre, comme on le voulait, en clair. Et on faisait ça avec une liberté totale sur ce qu'on écrivait et comment on le faisait. C'était une belle époque qui était marquée avec des grosses audiences pour l'époque, avec des journaux qui se tiraient jusqu'à 70 000 exemplaires pour certains. C'était beaucoup à l'époque. Au même moment, la presse politique s'institutionnalise. Les récits habituels des séances de délibération politique et leur parti pris apparent sont rejetés par la population. Ils ne marchent pas, ils ne sont pas vendus. À la place, les quotidiens comme Le Moniteur universel ou Le Journal des débats et décrets acquièrent de la notoriété en rapportant les débats qui ont lieu dans la nouvelle assemblée sans intervenir sur les orientations politiques, en publiant donc factuellement et objectivement les décrets des assemblées, les rendant par ailleurs indispensables pour la vie politique en province. À ce moment-là, alors, on voit se traduire l'importance de la presse dans la vie sociale et dans la vie politique en France. Débuté à Paris, tout cela va s'exporter en province et va régir en fait la manière que l'on aura de gouverner et la manière que l'on aura d'interagir les uns avec les autres. Grâce à cette presse, les informations circulent et les informations peuvent être considérées comme vraies. Cette base-là, on va un peu passer historiquement sur la période de l'Empire, qui est revenue beaucoup sur ce qui se passait, mais cette presse-là s'est institutionnalisée beaucoup plus par la suite. Au même moment, en France et dans les pays anglo-saxons, surtout en Grande-Bretagne et aux États-Unis, vont se développer deux types de presse, deux types de journalisme. En Amérique, ce sera le journalisme des faits. On va le traduire avec le terme « facts, facts, facts ». On doit au journalisme anglo-saxon l'apparition des méthodes comme l'interview, la récolte de données. Et c'est un journalisme qui sera très peu littéraire. C'est un journalisme qui aura pour but de présenter les faits de manière presque aseptisée. Cette méthode-là sera reconnue assez largement et va prendre le pas sur la méthode française qui, elle, était bien différente. En effet, en France jusque-là, le journalisme était en fait un moyen d'accéder aux sphères politiques, aux sphères littéraires de la société. C'était une sorte de sous-métier sur lequel, en fait, on allait s'exercer pour aller atteindre d'autres choses plus nobles, plus notables. On doit alors à la presse française l'apparition de nombreux écrivains très connus grâce en fait à un fonctionnement très littéraire. On cherchait en fait le beau, on cherchait l'esthétique, on cherchait des qualités d'écriture notables et c'est ça qui faisait la qualité d'un bon journaliste. Sa capacité non pas à rapporter les faits, mais à rapporter des beaux discours. On aura alors des notables comme par exemple Victor Hugo, le plus connu d'entre eux, qui aura fait le succès de nombreux journaux grâce à des petites nouvelles qu'il faisait au quotidien. À noter qu'à ce moment-là, le développement économique de la presse va commencer. Au moment où la France va s'américaniser dans son rapport à l'information et au journalisme, à ce moment-là, on va aller aussi avoir les méthodes américaines de financement. La publicité commencera à faire son apparition dans les tabloïds et va de plus en plus devenir une méthode de financement classique. On va alors avoir les premières collusions entre la liberté de l'information et les intérêts des personnes qui possèdent les médias. De plus, avec le développement de la presse écrite, on verra apparaître d'autres modes de communication que sont premièrement la radio, puis la télévision. Avec eux, les collusions vont devenir de plus en plus nombreuses et vont pouvoir continuer de plus en plus à s'exercer. On va avoir comme exemple, on ne pourra pas revenir en fait sur tout et je m'en excuse parce que ça mériterait une émission entière pour ça, mais on pourra citer par exemple l'utilisation de la presse massivement en 14-18 pour la propagande de guerre et encore plus et de manière beaucoup plus brutale entre 39 et 45 pendant la Seconde Guerre mondiale où l'intégralité des médias français traditionnels entre guillemets était utilisée pour donner la parole au régime de Vichy et donner la parole aux idéaux du pouvoir. À côté de ça, on verra aussi à la télévision l'apparition des politiques et des débats politiciens à la télévision avec une mise en jeu très américaine de débats où on va chercher le conflit, on va chercher à opposer les participants l'un contre l'autre et surtout l'apparition sous forme de spots publicitaires des clips de campagne. C'est un fait notable parce qu'il marque aussi l'apparition des débats politiques dans les cercles de divertissement à la base que sont les médias télévisuels. Dans ce sens-là, on verra alors des politiciens américains pour commencer, puis en France rapidement, se battre à coups d'opinions, à coups de choses très spectaculaires. On pourra noter entre des clips de campagne où le seul message était une bombe atomique qui tombait sur une petite enfant, avec derrière « si ne vous voulez pas ça, votez pour moi ». En tout cas, la presse a beaucoup changé depuis le temps et s'institutionnalise de plus en plus. Nous avons essayé de retracer un bref historique de ce qui se passait, Mais pour savoir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui et surtout comment les gens ont, ont un rapport aujourd'hui à cette presse qui a bien changé, nous sommes allés dans les rues de Marseille interroger des gens, interroger des Marseillais sur leur rapport à l'information et comment ils s'informaient.
Je suis clairement un gros consommateur d'infos. Mes habitudes de consommation sur mon téléphone se sont un peu rabattues sur les applications de, sur les applications de médias. Donc je passe en gros mon temps libre à lire des articles sur des journaux et tout. Et en général, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je consomme quand même pas mal d'actualités et j'ai pas mal rejeté les réseaux sociaux. J'utilise un tout petit peu Twitter encore, mais Facebook très 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 peu, Instagram pas du tout, Snapchat pas du tout. Enfin je deviens très vite accro en fait. Une fois que je rentre dedans, une fois que je prends des habitudes, ça me prend des quantités de temps mais absolument inouïes. Je me suis dit autant désinstaller, autant m'en débarrasser.
Quel média? Le monde diplomatique, je crois que c'est le seul qui est indépendant. Et après j'ai levé la télé parce que elle me donnait mal à la tête, des informations. La manipulation de l'information, ça me donnait mal à la tête.
Alors moi je me suis tenue à l'écart de l'actualité pendant très longtemps, volontairement, même si c'est assez con parce que ça me faisait de la peine. En fait, je trouvais ça un peu triste. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité récemment et j'utilise surtout les réseaux sociaux. Donc en soi, je ne suis pas très très informée parce qu'on a quand même beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux. Donc je vois ce qui passe sur les réseaux sociaux et après je discute avec mon entourage, mes amis et ma famille pour voir un peu ce qu'ils en pensent et ce qui est vrai ou pas.
Je suis l'actu assez, pas forcément beaucoup mais bien. Mes principaux réseaux, ce sont les réseaux sociaux, les sites internet, les sites indépendants. La télé aussi, mais j'ai beaucoup de recul par rapport à ce qui se dit.
Je suis pas un gros consommateur d'actualité, les trucs qu'on va pouvoir discuter à la pause avec tout le monde, tout ce qui passe dans les journaux télévisés et tout, ou même dans les journaux papier, plus des articles dans le monde diplomatique de temps en temps, des trucs comme ça. Et un peu via Facebook aussi, Mister Mondialisation, ce genre de trucs. Et par contre après plus une espèce de veille un peu sur les sujets qui m'intéressent vraiment donc c'est tout ce qui est plus alternatif et enfin construction alternative et tout, et donc là c'est une sorte d'actualité aussi mais
j'utilise la presse quotidienne, un peu de presse hebdomadaire et puis la télé. Je suis très 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 méfiant vis-à-vis des réseaux sociaux. Pas d'informations, mais chaque fois je trouve que c'est de la manipulation et qu'ils exagèrent. Voilà. Je ne dis pas tous les médias sont fiables, mais ceux dont j'use, oui.
Et vous, du coup, votre média un petit peu de référence serait lequel et pourquoi?
Eh bien, je vais vous dire, c'est La Croix. Parce que justement, ils donnent à informer et pas à commenter.
Moi, c'est plus les réseaux sociaux, moi. Après la télé, c'est pas trop. Les infos BFM TV, je sais pas trop ça, c'est plus mon père, tout ça, mais moi c'est plus les réseaux. Des trucs comme ça, Facebook, voilà, des bails comme ça, de jeunes. Je sais pas, ça m'intéresse pas trop. Après, c'est plus mes parents, ils regardent ça. Mais moi, ça m'intéresse pas trop. C'est mes parents, ils regardent, et après eux, ils me disent qu'est-ce qui se passe, mais moi ça m'intéresse pas trop.
J'aime bien regarder, j'aime bien m'intéresser, mais je crois pas trop en fait. J'y crois pas parce que je sais pas, chacun vient avec sa sauce, chacun donne une opinion et à la fin on comprend rien en fait. Ben, la télé, Facebook pas trop, mais parfois c'est intéressant. Sinon, YouTube, Internet. Quoi. Ce que j'aime bien, c'est une émission, je trouve que c'est très cool parce que c'est drôle et ça porte l'information d'une manière un peu plus pertinente, si on veut dire, le quotidien sur TMC. C'est le seul truc que je trouve intéressant. Sinon, le reste.
Je regarde pas du tout la télé, j'aimerais bien avoir le temps, mais par rapport aux émissions télé, on n'a pas forcément les informations, des informations qui sont pertinentes. Je regarde beaucoup l'information sur Twitter, Facebook, après il faut faire le tri, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément pertinentes, beaucoup de gens qui partagent ce qu'ils ont envie de partager, et du coup on peut avoir des fake news, donc j'essaie de consommer l'information un peu plus sur les réseaux et après de faire le tri et regarder en fonction de ce qui m'intéresse ou pas.
Je suis l'actualité avec comme on peut, hein, parce qu'il y a un peu de l'âme, c'est un peu de galère, on va dire. Soit j'achète des journaux, je lis les journaux, soit des émissions correctes de podcast ou de. Parce que la télé, les informations sur internet, je ne suis plus. Ouais. J'ai arrêté.
Dans les audios précédents, nous avons entendu parler de médias traditionnels, comme s'il existait une tradition dans le corps journalistique, comme s'il existait des normes, des règles qui régissaient ce monde. Eh bien, ces règles-là, elles ont été étudiées longuement par les sciences sociales en général et plus particulièrement par la sociologie. Alors ici, on se propose, pour parler de la place du journaliste dans notre société, de comprendre la place du journaliste au sein du média dans lequel il travaille par cette approche sociologique. En effet, la profession journalistique a beaucoup évolué au fil du temps, l'amenant à s'institutionnaliser comme de nombreux autres métiers avant lui. Ainsi, il faut comprendre que le mythe du journaliste solitaire, voguant au fil des événements avec son micro, son carnet, son stylo, décidant seul des sujets qu'il va traiter, de son approche et de ses échéances, ce mythe-là est loin d'être vrai, hormis pour quelques rares exceptions. Pour commencer, être journaliste, c'est, le plus souvent, être membre d'une équipe de rédaction, au code et à la hiérarchie bien ancrée. Tout en haut de cette hiérarchie se situe le rédacteur en chef, qui exerce une direction que l'on pourrait qualifier de politique, au sens où il définit la ligne éditoriale du titre. Elle peut résider dans un positionnement politique au sens large, dans le choix du type d'information, du traitement de celle-ci, que le titre privilégie. Déjà, le rêve d'une liberté absolue se brise lorsqu'on comprend que ce poste hiérarchique peut être sous le contrôle des actionnaires, d'un directoire ou d'une société de rédacteurs. En dessous de ce rédacteur en chef se situe le secrétaire de rédaction, dont le travail ingrat et essentiel consiste à gérer la répartition de l'espace rédactionnel, à suivre le retour des articles dans les délais, à contrôler leur calibrage et leur qualité, à faire face aux imprévus en décidant du report d'un papier devant la surcharge de l'actualité, ou, à l'inverse, en remplissant un blanc par la publication d'un texte en souffrance. Celui-ci se fait alors le relais entre le factuel, le papier, comment il sera fait, et l'écriture qui sera faite par l'étape d'en dessous. Cette table d'en dessous, celle qu'on retrouve enfin, c'est les chefs de service qui dirigent un groupe de journalistes et qui est le relais entre son équipe et la direction hiérarchique. On voit alors que le journaliste n'est pas libre dans ce qu'il fait, mais est bien membre d'une équipe assez classique et qui va alors subir des pressions officielles ou officieuses, assumées ou non, mais des pressions qui vont guider son travail. Rajoutons à cette répartition du pouvoir l'ensemble des services non rédactionnels, comme la régie publicitaire, le service juridique, marketing, etc., et nous pouvons vite voir se dégager une sorte de norme dans l'exercice du métier de journaliste. En d'autres termes, le journaliste est soumis à la pression hiérarchique que l'on peut retrouver dans des entreprises classiques, et son champ d'action est extrêmement limité, cadré. Qui a parlé de liberté de la presse ? De plus, l'ensemble des métiers du champ journalistique sont soumis à une pression à la disponibilité, à une injonction à être au courant de tout, tout le temps. Dans ce sens, Tunstall décrivait en 1996 une journée type d'un rédacteur en chef. Celui-ci commence dès 7h du matin en écoutant les informations sur la BBC, en feuilletant les quotidiens du matin. À 8h, il questionne, depuis son domicile, certains chefs de rubrique sur leurs projets pour l'édition du jour. Il arrive alors au bureau à 10h et passe la matinée à discuter avec les chefs de rubrique sur la composition de leurs pages, le bilan du numéro sorti le matin, etc. En fin de matinée, la conférence de rédaction arbitre entre les différentes rubriques et esquisse une maquette de l'édition à venir. Au début d'après-midi, le chef de rédaction va pouvoir décanter le contenu des pages d'information dures en circulant dans les services concernés. Il choisit également parmi l'offre des caricaturistes les dessins qui seront publiés. À 6h, la seconde conférence de rédaction fixe le contenu définitif de l'édition qui va arriver. Et en fin d'après-midi, le rédac-chef travaille sur la une avec ses assistants, il relie les épreuves, il vérifie les titres. Si l'actualité est chaude, il peut rester jusqu'à 9h. On voit alors une journée dense, soumise à une instantanéité de l'information, on va réagir très rapidement dans la journée pour l'édition du lendemain, voire dans la journée pour l'édition du jour même. Alors, en étant rapide, en étant dans l'immédiateté, est-ce qu'on ne perdrait pas un petit peu d'un recul nécessaire pour faire un véritable travail d'investigation ? Le journaliste est certes forcé d'être au cœur de l'événement qu'il raconte, mais cette injonction à la disponibilité ne serait-elle pas un frein à l'exercice même de sa profession ? En étant reconnu par sa capacité à être le premier sur l'information, à être toujours au courant, le journaliste n'aurait-il pas tendance à reproduire une seule et unique forme d'observation ? Justement, le fait de reproduire la même forme de journalisme encore et encore peut ramener des problèmes. Les automatismes et les règles qui régissent le monde journalistique ramènent avec eux aussi des limites qui restent tout aussi régulières que le mode de fonctionnement du journalisme est lui-même régulier. Pour en parler, on s'est intéressé à Éric Neveu, sociologue qui a pensé la sociologie du journalisme. Il nous parle, dans sa sociologie, des réflexes journalistiques. On va essayer d'expliquer un peu ça avec un exemple assez concret, avec Christophe Castaner, notre cher ministre de l'Intérieur. Il suffit donc de regarder et de chercher à comprendre la propagation de la fake news, selon laquelle les Gilets jaunes auraient attaqué l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour comprendre les limites d'un tel modèle. Premièrement, on a observé un relais médiatique particulièrement important.
Celui-ci va jongler sur deux thèmes. Premièrement, un événement non intentionnel, mêlant un sujet bouillant d'actualité, les gilets jaunes, qui sont très vendeurs, et un fait divers, particulièrement vendeur également, qui est l'attaque d'un hôpital. On avait vu par exemple l'hôpital Necker qui avait été attaqué entre guillemets pendant les manifestations contre la loi travail en 2016, qui avait fait lui également la une des journaux pendant des jours. C'est typiquement le genre d'informations qui sont recherchées par les équipes de rédaction, car elles sont vendeuses, elles attirent le clic et la lecture. De ce fait, une information rapide produit en fait une surmédiatisation de l'affaire, car elle est au centre des débats qui vont la concerner. Deuxièmement, avec ce fait, on observe une mise en avant d'un interlocuteur de référence dans ce domaine. Lorsqu'un événement intentionnel, prévu, doit être relayé, les journalistes vont alors se diriger vers les acteurs de l'événement pour les interroger directement. Par exemple, lorsqu'un festival de musique est organisé, les journalistes vont interroger les organisateurs de l'événement pour leur permettre d'en parler. Mais ça se corse lorsqu'un événement non intentionnel se déclare. Les journalistes ont alors des réflexes qu'étudie Eric Neveu, des réflexes qui vont se tourner vers des personnes identifiées comme qualifiées pour réagir, commenter ou expliquer la situation. Ces réflexes permettent alors de produire et de relayer rapidement l'information sur l'événement, ce qui est une compétence qui traduit la qualité d'un média dans les cercles journalistiques. Au plus vite on va réagir, au meilleur sera la qualité du média. On a alors une panoplie d'experts en tout genre qui réagissent en premier lieu, donnant ainsi à Christophe Castaner la place d'interlocuteur de confiance pour discuter de ce qu'il nommera une attaque, qui est une formule reliée très largement dans un premier temps. Le temps court de la réaction étant passé, les prémices d'une investigation peuvent avoir lieu. C'est à ce moment-là que les sources secondaires vont pouvoir gagner en visibilité. On voit alors le témoignage des équipes médicales présentes fleurir sur les chaînes de télévision et en tribune tabloïde. Pourtant, même après coup, nous voyons encore les effets de ces réflexes dont on a parlé plus tôt. La source principale étant considérée comme fiable, les questions posées par les journalistes restent orientées sur ce qu'a dit cette source principale, et donc ils vont poser des questions sur la réaction à cette attaque, demandant alors au personnel s'ils se sentaient choqués, s'ils avaient eu peur, etc. Et ce n'est que plusieurs jours après l'événement, et après que sa centralité dans l'actualité se soit ternie, que les vidéos prises sur place, que les commentaires des badauds et autres manifestants présents seront relayés un peu plus largement. Un sujet d'actualité n'a que très peu de chances de rester plus de quelques jours à la une. Le temps court du traitement journalistique se retrouve ici. On doit parler du nouveau sujet plus attrayant pour le consommateur d'informations au moment où une vision globale de la situation émerge. Ainsi, un manque de recul se traduit autour des réflexes et de ces normes en fait qui régissent le monde journalistique traditionnel. Et on va insister ici sur le mot traditionnel, car ce qu'on observe ici n'est pas une norme à tout le monde, mais bien ce qu'on observe en général dans les médias dits traditionnels. Donc, le manque de recul est connu pour être un frein à l'appréciation objective d'une situation. Et le journalisme ne semble pas être une exception à cette règle.
Ok, attends, ça commence à faire un peu beaucoup, là, entre l'approche historique, l'approche sociologique, et puis toutes les informations qu'on balance, là, moi, ça me donne envie un peu de partir. Allez, je me barre.
Et justement, ça sera la thématique de la musique qui va suivre, d'une enfant du pays, Kenny Arcana, avec son titre très connu, « Je me barre ».
Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir. Alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part. Et si on veut me dresser, me faire avancer ou pas, moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flicots que j'ai entendu dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de la car un clone n'a qu'un flic et vigile. Fouk, c'est peut-être con mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe, enivré. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au bar. Quand j'ai rien, car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Et le sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un traître. Face à mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Fous depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque. La vadrouille m'ouvre l'esprit, les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel et le toit, entre ciment et belle étoile.
Le mode de fonctionnement des médias traditionnels aujourd'hui semble être une conséquence immédiate d'une transformation profonde qu'a vécue notre société ces dernières années, la révolution numérique. En effet, celle-ci a entraîné des bouleversements dans les modes de communication et de transmission de l'information. Dans cette dernière décennie, ont succédé à l'arrivée du smartphone en 2007 les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook ou YouTube. Chacun peut publier son opinion sur l'actualité, convaincre, persuader, publier des contenus politiques, partager des vidéos, en produire, etc. Tout ça dans une durée de plus en plus réduite, permise par les avancées technologiques. Par le biais du smartphone ou de l'ordinateur, l'information semble être à la portée de tous, partout, tout le temps. Cette omniprésence de tweets, de publications, de contenus informatifs, donnant la sensation d'être constamment stimulé par le monde extérieur, vient à questionner de nouveau le journalisme. À notre époque, où chacun a la possibilité de produire de l'information ou de la diffuser de façon quasi immédiate, les médias traditionnels donnent la sensation de jouer la course du plus rapide, du plus attrayant, peu propice à une analyse de fond de l'actualité. De plus, la plupart des médias traditionnels appartiennent à de grands milliardaires. Tous nos quotidiens nationaux, toutes nos chaînes d'information, l'essentiel des hebdomadaires de référence et des chaînes de télévision privées appartiennent à de grands milliardaires. En vérité, ils sont 10 à se partager l'accès à nos consciences, 10 à contrôler toutes les fréquences, 10 milliardaires à exploiter pour leurs intérêts personnels les heures de temps de cerveau disponibles que nous leur laissons chaque jour. Tenir l'opinion, être à la source de la petite musique qui fait l'actualité, qui construit le monde, les enjeux, les questions et les réponses de tous nos citoyens, devenus malgré eux des consommateurs de l'information, est un enjeu industriel à la hauteur des ambitions démesurées de nos milliardaires. Et tant pis pour la démocratie, le droit à une presse libre et indépendante, le droit à l'information, tous ces grands principes ne comptent plus. Mais la population n'est pas dupe, et la méfiance face aux médias traditionnels s'accroît, comme nous allons l'entendre tout de suite.
J'ai eu beaucoup de problèmes avec les médias en général. Du coup, c'est une relation complexe que j'ai avec eux. J'arrive pas trop à savoir si je peux avoir vraiment confiance en eux.
Je trouve qu'il y a certains conglomérats, il y a certains grands journaux qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont pas forcément la qualité qu'on attend d'eux envers les règles de journalisme et qui ont des influences intéressées. Mais en même temps, je pense qu'on a quand même encore une situation qui est assez positive parce que tu peux créer un journal comme tu veux, tu peux parler de ce que tu veux, il y a cette liberté là. T'as une liberté de parole qui est quand même assez développée. Après, c'est vrai que les forces qui dominent le discours public sont pas forcément aussi indépendantes et sont pas forcément aussi objectives que...
Bah, y a peut-être un public que ça intéresse, mais bon, moi quand j'ouvre le journal marseillais, la marseillaise, la Provence, tout ça. C'est beaucoup en images. Hein. Il y a peu d'articles de fond. Parce que c'est un journalisme de masse et que ces journaux un peu libres, gratuits, ils ont un peu tout tué. Les gros journaux qui étaient Le Monde, qui étaient Le Figaro, des choses comme ça. Puis le coût des journaux, il a largement augmenté aussi. 2,50€ Le Monde, c'est cher.
Je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de conneries, mais il y a aussi beaucoup de choses vraies. Et j'ai plus confiance en les réseaux sociaux parce qu'au milieu de toutes les conneries, il y aura des choses vraies qui vont ressortir. Alors qu'actuellement, dans les médias, de ce que j'ai pu voir à la télé, en tout cas, ça dit toujours la même chose, quelles que soient les chaînes. Et j'ai aucune confiance en ce qui est dit, parce qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Par contre, après, tout ce qui est journaux, je ne lis pas tellement de journaux, donc je ne pourrais pas dire.
J'aime pas. Je trouve qu'ils ne sont pas très honnêtes. Ils agissent plus pour l'intérêt de leur patron. Ils sont des milliardaires, donc il faut bien faire ce qu'ils disent, que pour l'intérêt de l'information en elle-même. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une hiérarchie qui est mal faite de l'information, c'est-à-dire que des fois il y a des gros drames et tout, et on préfère traiter au premier plan pendant des semaines et des semaines la succession de Johnny Hallyday, alors c'est bon, tu vois.
Bah, j'étais à l'étranger dernièrement et j'ai regardé France 24 et c'était hyper bien. J'ai trouvé ça assez objectif et Arte, sinon, qui est un truc quand même plutôt de télé et qui est hyper bon.
Tout ce qui est local, je trouve c'est intéressant, mais quand ça parle du monde, chacun, il a une opinion, comment dire ça, il est rangé d'un côté, disons. Il a, tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai l'impression, je sais pas, ils veulent plutôt promouvoir quelque chose ou casser quelque chose, enfin ça dépend, ce qu'ils veulent. Donc ils nous dirigent, ça, en fait. Ils ne donnent pas vraiment l'information, c'est ce que je trouve.
Je pense que les médias montrent en fait ce qu'ils ont envie de montrer. Il y a des annonceurs en fait, donc forcément les médias sont tenus par des grands groupes et si ça les met en porte-à-faux vis-à-vis de certains sujets d'actualité, bah, ça peut être problématique. Donc ils ne vont pas forcément parler de sujets qui va leur poser des problèmes. Donc forcément il y a un tri de l'information et je pense que même si on est dans un pays où la presse est censée être libre, elle ne l'est pas forcément dans le sens où... je dirais pas que les médias sont corrompus parce que c'est assez lourd de sens dans ces propos, mais je pense que l'information est pas forcément, on montre pas forcément les bonnes choses. Il y a des choses qui se passent et quand on voit le ramdam que font certains titres d'actualité, par exemple Notre-Dame, le bordel qu'il y a eu pour Notre-Dame, on en a parlé quoi une semaine et après on est passé à un autre sujet qui a fait polémique, donc forcément. Quand on voit l'argent qui est capable d'être débloqué et combien on peut parler de certains sujets d'actualité, alors qu'à côté de ça, il y a des trucs vraiment beaucoup plus graves, ou des pays qui sont dans la misère, tout plein de trucs. Je pense que l'information est filtrée, du coup, on a plus ce truc de médias qui sont pertinents et qui vraiment te transmettent l'information.
La télé, c'est pas trop mon truc. BFM TV, tout ça, et CNews... C'est pas des médias qui m'intéressent trop. Bah parce que déjà un média qui tourne 24h sur 24, c'est pas un vrai média et puis...
Eux, leur but pour moi c'est de vendre, c'est de faire du chiffre. Et du moment où leur but c'est de faire du chiffre, ils sont pas obligés de dire des choses vraies pour gagner des sous. Et que c'est souvent des choses fausses qui font plus gagner que la vérité. Et du coup ils se débrouillent pour augmenter la réalité, on va dire.
D'après ces audios, aux transformations des modes d'information, s'ajoute donc la méfiance grandissante des citoyens à l'égard du monde médiatique. Sont dénoncés notamment le tri de l'information autour de sujets de moindre importance et les intérêts économiques qui visent à occulter d'autres sujets. Plus concrètement, le mouvement des Gilets jaunes a mis en avant les pressions politiques et économiques pesant sur les médias, ayant pour conséquence la production d'informations orientées, nuisant à leur mouvement, mettant en danger la démocratie et la possibilité des citoyens d'accéder à une vision impartiale de leurs actions. Les Gilets jaunes déplorent notamment le flagrant déni des médias traditionnels autour des violences policières ayant eu lieu lors des manifestations. Ajouté aux nouvelles formes de production d'informations que sont les réseaux sociaux, ce déni est apparu beaucoup plus flagrant, puisque des vidéos amateurs prises lors des manifestations démente immédiatement les discours tenus par les médias traditionnels et exacerbe donc naturellement la défiance que portent les Gilets jaunes et leur soutien à ces derniers. La révolution numérique permet donc de rendre beaucoup plus visible le discours orienté des médias, soutenant délibérément les intérêts du pouvoir en place. Ce manque de neutralité, nuisant fortement à l'image des mouvements sociaux, incite les populations à se tourner vers d'autres modes d'information. De cette prise de conscience récente et violente de la crise médiatique, les Gilets jaunes et leur soutien se translatent donc vers les réseaux sociaux, espace de partage des expériences, de production d'informations moins filtrées par les représentants du pouvoir politique et économique. Cet attrait pour les réseaux sociaux résulte donc d'un sentiment de méfiance pour les médias traditionnels, bafouant les règles démocratiques et la liberté de presse. Mais la méfiance des Gilets jaunes a tendance à effectuer des généralisations abusives sur l'ensemble des médias, oubliant qu'il existe encore un bon journalisme. Cette méfiance exaltée lance un ultimatum au journalisme qui doit, une fois de plus, défendre sa légitimité en se plaçant en opposition aux médias critiqués. Les enjeux du journalisme, face à l'augmentation des méfiances, comme nous avons pu l'entendre, doit, pour retrouver sa légitimité, répondre aux besoins d'informations plus locales, plus proches du terrain, et d'assurer son indépendance et sa transparence par rapport au pouvoir économique et politique. Quelles qu'en soient les raisons, l'attrait grandissant des réseaux sociaux oblige le journalisme, pour continuer d'exister, à redéfinir ce qu'il est et ses enjeux. Le journalisme doit, plus que jamais, entretenir et défendre ce qui le distingue des autres, le travail d'analyse de l'information. En effet, dans cette course vers l'immédiateté, le journaliste se doit de prendre le recul lui permettant la contextualisation de l'information, de solliciter ses connaissances afin de faire parler l'information en ce qu'elle contient d'implicite ou en ce qu'elle dénonce du pouvoir en place. Ainsi, le journaliste, pour se distinguer des médias traditionnels, mais aussi des productions d'informations amateurs sur les réseaux sociaux, doit combler les manques que ces deux acteurs ne remplissent pas ou plus. Le journalisme, alternatif aux médias traditionnels, doit donc traiter de l'actualité en transformant les données brutes accessibles et diffusables par quiconque utilisées dans les réseaux sociaux en prisme de lecture cohérent de l'actualité tout en répondant à des critères de véracité. Cependant, les réseaux sociaux ne doivent pas être rejetés totalement. En effet, on a pu voir ces dernières années que malgré les nombreuses dérives des réseaux sociaux, ils ont été également les catalyseurs des mouvements sociaux, permettant aux individus de se retrouver, de partager leurs ressentis, d'organiser des événements, des rassemblements qui ont facilité l'organisation des mouvements et la création d'idées communes. Le journalisme doit donc nécessairement intégrer ces nouvelles formes de participation citoyenne et de modes d'expression dans son travail et de créer des espaces afin de permettre aux citoyens de satisfaire leur envie de ne plus être simplement passifs de l'information. Les revendications d'une démocratie plus participative passent également par une écriture de l'actualité plus inclusive des opinions des individus. En résumé, la méfiance de la part de la population à l'égard des médias traditionnels, la nécessité d'ouvrir des espaces de discussion entre les individus, de partage d'informations plus ou moins sourcées, de possibilités de rassemblement non contrôlés par les systèmes de sécurité qui contrôlent actuellement les réseaux sociaux, et la revendication d'une production d'informations plus transparente et indépendante brossent les enjeux que doivent relever le journalisme d'aujourd'hui.
Et justement, ces enjeux, on allait en parler avec les Marseillais dans la rue, avec un nouveau micro-trottoir. On leur a demandé, tout simplement, qu'est-ce que c'était pour eux, un journaliste.
Un journaliste, ça sert à avoir une confiance en une personne qui est censée te donner des informations sur tout ce qui se passe dans l'actualité en général, que ce soit politique, événementiel ou... Et international surtout.
Un journaliste, ça sert d'abord à informer sur ce qui se passe dans le monde, à tous les niveaux, enfin à toutes les échelles globales, nationales, locales. Enfin au final, à sélectionner l'information pour en extraire le plus important. C'est pour ça qu'il est super important qu'il y ait une diversité dans les médias, parce que là, ce qui est le plus important dans l'actualité, c'est pas la même chose en fonction des intérêts que t'as, des opinions que t'as, des, voilà.
Comme on le voit aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il sert juste à être le porte-parole du chef d'État et de l'État et expliquer les décisions qui ont été prises, expliquer pourquoi c'est bien, ou se focaliser sur des petits événements pour cacher des gros événements. Alors que pour moi, un journaliste, ça devrait être quelqu'un qui est là pour rechercher une information, se renseigner sur cette information, se dire « tiens, ce sujet m'intéresse », se renseigner, voir les tenants et les aboutissants de ce sujet et dire la vérité sur ce qui se passe, quoi qu'il arrive.
Ça sert à faire relayer l'information de la façon la plus neutre possible. Après, ça dépend selon les journaux dans lesquels tu es. Il y en a, ça ne me gêne pas qu'ils aient certaines lignes éditoriales marquées. Mais ouais, un journaliste, c'est de rendre l'information vraie, genre, ce qui s'est passé réellement. et pas de faire une sorte de propagande.
Pas juste du journalisme de couloir ou du journalisme derrière la porte, du style BFM, genre « Ouh, ici il se passe quelque chose de très important, machin ». Allez, priorité au direct, machin. C'est effectivement peut-être plus sur le modèle du canard enchaîné, par exemple. Avoir un ancrage dans l'actualité, dans la réalité de ce qui se passe, etc. Mais tout en ayant une distance, un recul critique par rapport à ce qui se passe, bah, ne pas être influencé par un propriétaire, des annonceurs.
Pas être dans l'info flash pour vendre. Mais malheureusement, si c'est ça qui se vend, c'est ce que les gens veulent aussi, de l'info flash. Donc voilà, est-ce que le journaliste doit avoir une sorte de rôle d'éducateur presque comprendre vraiment comprendre l'influence de son métier, la façon dont il exerce son métier, ça va avoir une influence sur la société.
Le journaliste est d'informer et pas de commenter. Voilà. Et je trouve les commentaires désagréables.
Un journaliste.
Ouais.
Ça sert à poster des trucs, quoi. C'est eux qui postent des trucs, les journalistes. Ça sert à poster des trucs.
Pour moi, c'est quelqu'un qui a une vision globale et qui va pouvoir retracer un événement avec une vision juste, parce que lui, il a des connaissances plus larges et c'est son métier, quoi, il se tient au courant. Hein. Mais sinon, un journaliste, c'est aussi quelqu'un qui, pour moi, sait bien écrire et sait bien résumer sa pensée, qui sait faire des belles dissertations.
Un journaliste, c'est censé faire le travail d'informer le peuple. Dans le sens où justement on est un peu corrompu par les infos, enfin à la base censé informer, donc enquêter justement faire ce travail d'investigation, dans le sens où il faut apporter la vérité au peuple. Enfin, tout le monde n'a pas accès à l'information, tout le monde ne comprend pas l'information de la même façon, et je pense que c'est important justement qu'il y ait des journalistes qui permettent de faire un travail approfondi dans le sens d'apporter l'information à des citoyens. Pour que justement ils ne soient pas tentés de faire ce travail d'investigation eux-mêmes et après avoir de fausses informations, quoi. C'est vraiment le devoir d'informer les citoyens et de leur apporter des pistes de réflexion pour après qu'ils puissent approfondir, mais approfondir dans le bon sens et pas forcément se baser sur des gros titres de journaux, des gros titres sur des titres, sur des articles partagés sur Facebook. Parce que la plupart du temps, les gens voient une information, on est dans une espèce de surplus d'informations constamment, et du coup forcément les gens ne lisent que les titres, et la plupart du temps on a des titres qui sont putaclic, donc c'est problématique, et du coup les gens se concentrent sur les titres, ne lisent pas le contenu, et des fois en fait le titre veut être putaclic et diffère du contenu qui est à l'intérieur de l'article.
Un journaliste, il a pour but d'exposer à la population des sujets, des faits qui sont pas connus aux yeux de tout le monde. Donc d'expliquer une vérité sur un sujet pointilleux, que ce soit en politique, en sport, en n'importe quoi, et d'informer les gens. Voilà, c'est un genre de rôle d'information, de vérité. Pas avoir un point de vue, mais que ce soit explicite qu'il l'est, quoi.
Alors, que ce soit par cet extrait que l'on vient d'entendre, par ces micro-trottoirs que nous venons d'entendre, ou par le début de l'émission, si nous voyons bien une chose, c'est que le journaliste est important. Être journaliste aujourd'hui, ce n'est pas rien. Il y a des grosses pressions qu'il y a derrière, et il y a une grosse importance, que ce soit dans la démocratie qui continue à vivre aujourd'hui en France, ou dans ce que l'on va attendre d'eux. Et pourtant, malgré leur importance, malgré leur centralité dans l'espace public aujourd'hui, le journaliste est régulièrement attaqué. Régulièrement et encore plus ces derniers temps. Je parle ici par exemple de la plainte venant du ministère des Armées contre 3 journalistes, puis 4, on l'a appris un peu plus tard, qui ont été convoqués par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, suite à des révélations qu'ils avaient faites sur l'implication de la France sur la vente d'armes au Yémen, à l'Arabie Saoudite, et surtout des armes françaises qui ont été utilisées contre des civils. Ces révélations, elles ont été considérées comme un scandale d'État par beaucoup, beaucoup de gens, comme un mensonge d'État même, car elles ont révélé aussi que l'État avait essayé de cacher ce qui se passait, et il ne s'est pas arrêté là, l'État. Par cette convocation par la DGSI, ils ont fait ça sous couvert de compromission de la sécurité nationale. Alors, convoquer des journalistes, ça choque énormément. Convoquer des journalistes en justice qui ont exercé leur travail, qui ont juste ramené de l'information aux yeux et aux oreilles du grand public, ça choque. Et ça s'est traduit par, le 24 avril, la formation d'un communiqué signé par énormément de médias comme Mediapart, Arte Info, Combini, Disclose, énormément, il y en a plus d'une trentaine, qui ont signé un communiqué commun qui, entre autres, disait que cette manœuvre du gouvernement et du ministère de l'Armée n'avait que pour unique but que de connaître les sources des journalistes. C'est grave. Connaître les sources des journalistes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire normalement. Et surtout, c'est quelque chose que l'on met en place lorsqu'on essaye de faire pression contre l'information, pression contre les journalistes qui essayent juste de communiquer. Ce communiqué-là, justement, il a été soutenu par beaucoup de monde. Entre autres, on pense ici au Syndicat National des Journalistes, la SNJ, Amnesty International, la Ligue des Droits de l'Homme et autant d'entités, par exemple Reporters sans frontières, qui ont communiqué sur le fait que ce n'est pas ça la liberté de la presse. Alors ça a continué encore après coup, il y a eu d'autres révélations avec la convocation par la DGSI également d'Ariane Chemin, journaliste très notable du Monde, qui elle s'est fait convoquer sur fond d'enquête sur l'affaire Benalla. Elle s'est fait convoquer, elle a réagi à ça en direct sur Europe 1, et on va écouter son extrait maintenant.
Sibeth Ndiaye, Ariane Chemin, la journaliste du Monde qui a révélé l'affaire Benalla, est convoquée par la DGSI. C'est pour intimider les journalistes qui enquêtent sur l'Elysée ?
Oh non, évidemment, pas du tout. Ariane Chemin est une grande journaliste pour qui j'ai, à titre personnel, beaucoup d'admiration parce que elle est à la fois une femme qui a eu un parcours journalistique professionnel remarquable. Et moi, je suis très profondément attachée à la liberté d'informer. Mais les journalistes sont des justiciables comme les autres. Il faut, en quelques secondes, que j'explique de quoi il s'agit au fond. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où nos deux soldats qui sont morts récemment en opération pour sauver des otages ont reçu un hommage national aux Invalides, les soldats qui les entouraient, qui appartenaient aux forces spéciales françaises, étaient tous masqués. C'était pas du folklore militaire, c'était parce que il s'agissait de protéger leur identité. Et il y a en France, en termes de défense du secret militaire,
là on parle de l'affaire Benalla.
Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Il y a en France un certain nombre d'obligations qui pèsent sur tous les citoyens et on ne peut pas dévoiler l'identité d'un agent qui appartient aux forces spéciales. Ce dont il s'agit là, c'est d'un article qui a été publié par Madame Chemin et qui a conduit à une plainte d'une personne. Manifestement un agent des services extérieurs. Et cette plainte. Dépendant du ministère de l'Intérieur. Cette plainte a été instruite par le parquet et elle donne lieu à des auditions. Il est normal qu'en tant que justiciable, Madame Chemin soit entendue dans cette affaire.
Mais la semaine dernière, d'autres journalistes ont déjà été convoqués par la DGSI après avoir enquêté sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen. Donc ça donne l'impression que dès qu'une enquête dérange le gouvernement, on envoie la police.
Il ne s'agit pas. Mais il est normal qu'un État protège un certain nombre de données qui sont nécessaires à des activités, notamment des activités de défense extérieure et des activités militaires. En ce qui concerne le Yémen, il y a eu une note classée secret défense qui s'est retrouvée dans la nature. Ça n'est pas normal et il est normal que ce gouvernement, mais que l'État français s'interroge sur le fait qu'il puisse y avoir des fuites en son sein. Parce que aujourd'hui c'est envers des journalistes, mais demain, est-ce que c'est pas envers une puissance étrangère que des notes? Et donc il faut qu'on soit capable d'aller chercher les choses. Ça ne remet pas en cause notre attention portée au secret des sources. C'est un droit qui est un droit important pour les journalistes, qui est même fondateur de leur activité. Mais pour autant, l'État, c'est l'État et il y a des secrets qu'on doit aussi protéger.
Alors on mettra de côté le côté un petit peu apitoiement, cette stratégie de communication très bien rodée de la porte-parole officielle du gouvernement actuel qui va donc nous mettre sur la table quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits avec cette prise d'otage qu'elle a citée pour essayer d'apitoyer un petit peu ou alors dire que l'État a des secrets qu'il doit garder pour nous protéger. On va mettre ça à côté pour revenir sur une citation qui a choqué énormément de gens, surtout dans le champ journalistique. Les journalistes seraient des justiciables comme les autres. Vraiment ? Eh ben non. Non, ce n'est pas le cas, et ça pourrait presque être considéré comme une fake news que de parler comme ça. En effet, sous la loi Blanchard, qui a été votée à l'unanimité en 1935 et en 1974, et de pair avec la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, on a ce qu'on appelle le statut du journaliste. C'est un ensemble de législation, un ensemble de lois qui garantissent le bon fonctionnement du champ journalistique français. Celui-ci, il va en fait être inspiré de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont on parlait tout à l'heure sur la liberté d'information. information. Et il vise en fait à protéger les sources, à protéger le public des journalistes contre l'amateurisme et contre les fausses infos et les atteintes à la déontologie. Alors ce statut-là, en fait, il dit qu'un journaliste n'est pas injusticiable comme les autres. Le journaliste est soumis à un régime qui est différent et il est complètement illégal que d'essayer d'avoir les sources d'un journaliste. Car celui-ci est le dernier rempart entre la vérité et ce que l'on essaye de nous imposer et il est émancipé même de la justice dans l'exercice de son travail car son travail est extrêmement important. Pour en parler un petit peu avec nous, on a donc un extrait de Pauline Hadès-Mével, qui est responsable du bureau Union Européenne et Balkans pour Reporters sans frontières, qui revient sur la situation en France au niveau de la liberté de la presse.
On a parlé de peur, de menaces sur les journalistes d'investigation en particulier. On voit aujourd'hui que ce que RSF dénonçait dans ses précédents classements, une détérioration du climat, un plus grand nombre d'attaques, des invectives contre les journalistes, clairement ce climat est mis en place, il s'est installé et il y a un climat de peur qui règne en Europe. Comment se manifeste-t-il ? Tout simplement, il y a plusieurs outils qu'utilisent des gouvernements, des réseaux criminels contre les journalistes, comme le harcèlement judiciaire, qui font que un certain type de journalistes en particulier sont visés. Il y a une perte de confiance dans ce que c'est que d'aller chercher l'information, de rapporter l'information pour la société civile, pour les citoyens. Donc ça, c'est un très gros problème et nous dénonçons chaque année le fait que des leaders politiques partout dans le monde et particulièrement en Europe puissent se livrer à des invectives publiques contre les journalistes. Alors, nous avons déploré évidemment le nombre d'attaques policières qui se sont déroulées au cours des 5 mois passés pendant le mouvement des Gilets jaunes. On a répertorié à peu près 60 attaques par les forces de l'ordre contre des journalistes importantes. Nous avons répertorié des pièces, des photos, nous avons des témoignages toutes les semaines de journalistes dont le matériel a été confisqué ou qui ont été frappés. Parfois qui ont été visés, en tout cas qui ont été victimes collatérales violentes de ces mouvements des forces de l'ordre qui théoriquement visent à ramener l'ordre et pas à frapper des journalistes. Donc ça, c'est une première chose que nous déplorons. Il y a un certain nombre de choses que nous avons accueillies comme les lois sur la manipulation de l'information en France, mais qui dans les faits sont difficiles à appliquer. Nous avons dénoncé le harcèlement judiciaire contre des journalistes par certains industriels, notamment Vincent Bolloré, mais aussi Vinci, c'est-à-dire un harcèlement judiciaire qui se répand partout dans le monde, mais qui est très présent ici, des procédures bâillon qui conduisent en fait les journalistes devant les tribunaux, qui les forcent à monter des dossiers, à dépenser de l'argent, du temps pour se défendre.
À noter que la France a été classée selon Reporters sans frontières 33e dans le classement sur la liberté de la presse. C'est pas mal pour le pays des droits de l'homme. Alors pourquoi ces attaques elles sont si compliquées ? Pourquoi c'est si grave ce qui se passe ? Pour la bonne et simple raison que le journaliste est le garant de la vérité. Le journaliste est le seul à pouvoir déterminer et avoir la légitimité à dire ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas, à informer le citoyen. Dans ce sens-là, les attaques contre les journalistes sont des attaques contre la démocratie et contre la liberté pour chacun et chacune de savoir ce qui se passe. Les journalistes sont les seuls à pouvoir contredire des versions gouvernementales, des versions d'entreprises, et le pouvoir qu'ils ont, attaquer les journalistes, c'est essayer de leur enlever ce pouvoir-là. Pour conclure sur cette idée de ce lien entre la démocratie et le journalisme, Anouk a encore un petit mot pour nous.
Mais pourquoi faut-il s'insurger contre ces dispositifs mis en place pour faire taire certains médias qui effectuent un véritable travail d'enquête, médias participatifs qui, en mettant en lumière ce qui n'est pas dit par le pouvoir politique en place, participent à nos prise de conscience sur le fonctionnement du système politique. La démocratie, littéralement pouvoir du peuple, nécessite pour exister que les citoyens puissent agir, avoir du pouvoir sur les décisions prises sur leur vie, individuelle comme collective. En France, la démocratie se résume très souvent au droit de vote, durement obtenu et auquel il faut absolument tenir. Le droit de vote permet aux citoyens d'un État de voter pour exprimer leur volonté à l'occasion d'un scrutin. Ce droit de vote exige donc naturellement la construction au préalable d'une volonté, d'un avis, d'une opinion. Elle se forge par de multiples facteurs sociaux, comme l'éducation, la place sociale, délivrant à chacun des valeurs permettant la prise de décision lors du scrutin. Toutefois, pour que cette décision soit réellement l'expression de la volonté de chacun, il paraît nécessaire de donner les éléments permettant un choix en accord avec sa volonté, D'où l'importance de médias transparents et indépendants.
En clair, si vous voulez réellement être libre, eh ben agissez pour une information réellement libre. Pour terminer cette émission de manière assez traditionnelle, je vais vous proposer l'actuel agenda d'attaque pour le mois à venir. Mardi 18 juin, à 18h30, dans notre local du 29 boulevard Longchamp, Attaque Marseille organise une projection débat autour du film documentaire espagnol « No estamos solos », réalisé par Pere Juan Ventura en 2015. Ce film est une plongée dans les mouvements politiques qui réunissent des millions de citoyens en Espagne. Tous s'organisent pour lutter contre les restrictions des libertés. La crise en Espagne a touché toute la population, retraités ou actifs, jeunes ou plus vieux. Aucun Espagnol ne peut prétendre aujourd'hui ne pas connaître quelqu'un qui n'a pas subi la crise de plein fouet. Les restrictions budgétaires sont partout, dans l'éducation, dans le système sanitaire, dans les autres transports publics. Alors l'Espagne a commencé à s'insurger. Le mouvement des indignés a fait élever sa voix, et aujourd'hui de nombreux mouvements s'en sont inspirés pour continuer à défendre les droits de chaque citoyen. No estamos solos retrace leur bataille. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Dès 18h, avant la projection, Attaque Marseille vous accueillera et vous offre l'apéro. Et puis, la projection sera suivie d'une discussion où nous pourrons débattre des mouvements sociaux, notamment avec certains gilets jaunes que nous avons invités. Alors n'oubliez pas, c'est mardi 18 juin, à partir de 18h, au local d'Attaque Marseille, au 29 boulevard Longchamp. Et dès le lendemain, mercredi 19 juin, comme tous les deux mois depuis janvier 2018, Attaque Marseille organise avec la librairie Maupetit sur la Canebière un rendez-vous littéraire à l'occasion de la sortie d'un livre édité par Attaque, par un membre de son conseil scientifique, ou sur les thématiques traversant les réflexions de l'association. Ce troisième rendez-vous, en 2019, aura lieu le mercredi 19 mai à 16h30 à la librairie Maupetit, 142 sur la Canebière, dans le premier arrondissement, autour du livre Greenpeace France, une histoire d'engagement. En partant de l'expérience et du vécu de celles et ceux qui ont participé à écrire l'histoire du mouvement Greenpeace en France, cet ouvrage, en couleur, illustré de nombreuses photos et archives, incarne 40 ans d'action pour protéger l'environnement, la biodiversité et promouvoir la paix. Parcourir l'histoire de Greenpeace en France, c'est revisiter l'histoire contemporaine à l'aune des enjeux écologistes qui paraissent aujourd'hui aussi incontournables qu'ils étaient émergents il y a 40 ans. À une époque, la nôtre, où l'incapacité des États à engager les mesures dans l'urgence écologique, eh bien, c'est très important d'en parler. C'est très, très important. Et on vous propose de nous retrouver donc mercredi 19 juin à 16h30 au premier étage de la librairie Maupetit en haut de la Canebière. Pour finir, nous invitons les auditrices et les auditeurs de Radio Galère qui le souhaitent à notre conseil d'administration d'Attaque Marseille en plein air le mardi 2 juillet au Faro à 18h30 autour d'une auberge espagnole. Chacun ramène ce qu'il peut. On s'installe sur les pelouses auprès des statues en métal. On discute, on boit un coup, on regarde les patous partir et c'est pas triste. À l'ordre du jour, les bilans et les perspectives des groupes de travail d'Attaque Marseille et un débat sur les actions climat dans le cadre d'Attaque. Et si vous voulez recevoir des informations sur nos activités, vous pouvez toujours nous envoyer un message à l'adresse accueil.marseille@attaque.org, accueil.marseille@attaque.org, et nous vous inscrirons sur la liste de diffusion. Dans tous les cas, on espère que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des retours ou quoi que ce soit, à nous contacter sur la page Facebook Attaque Marseille ou alors Attaque Campus Marseille. On est ouvert à tous les retours. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur Radio Galère 88.4.
Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.